Le piège, chapitre 5. En quittant le commissariat central, Bridé prit la rue de la Charité. Yolande avait été vraiment maladroite. En téléphonant à Vichy, en dérangeant des personnages importants, ou du moins qui se croyaient importants, elle avait certainement donné une impression d'affolement. Il devait s'imaginer que quelque chose de beaucoup plus grave qu'une simple vérification d'identité s'était produit. Yolande avait mis son mari dans une situation ridicule. Il lui avait pourtant bien dit de ne point bouger. Enfin, elle avait cru bien faire, et il ne pouvait lui en vouloir. Il arriva peu après à l'hôtel. Cet hôtel s'appelait l'Hôtel d'Angleterre. Un fanatique vichyssois n'avait pu le supporter. Une nuit, il avait lancé des pierres sur la marquise et des morceaux de verre bleuis, à cause des alertes, traînaient encore par terre. Yolande était sortie. Elle devait faire d'autres démarches. Le coup de téléphone de Vichy n'avait peut-être pas été efficace. « C'est extraordinaire, » pensa Bridé, « ce que les femmes aiment les histoires. » Il aperçut le propriétaire. Il craignit que celui-ci ne lui fît une observation, qu'il ne le rendît responsable des ennuis que la police risquait de faire à l'hôtel par la suite. Il n'en fut rien. Le propriétaire lui fit un petit signe amical où l'on sentait sa satisfaction de retrouver son client libre. Cette attitude causa à Bridé un grand bien. Il était réconfortant de voir des Français faire passer leur intérêt après la solidarité que se doivent des hommes nés sur le même sol. Bridé attendit plus d'une heure. Enfin, Yolande revint. Comme il le redoutait, elle avait employé la matinée à alerter ses amis. Il lui fit observer qu'elle aurait mieux fait de se tenir tranquille. « Comment ? » s'écria-t-elle. « Tu voulais que je te laisse en prison ?» Il sentit de nouveau qu'il y avait un monde entre elle et lui. La défaite n'avait rien changé au fond de son cœur. Celle-ci était à ses yeux une catastrophe, certes, mais pas telle qu'elle pût modifier les réactions normales de défense d'un être humain. Elle annonça qu'entre autres personnes, elle avait été voir un directeur de journal. Il l'avait très bien reçue. Il lui avait dit qu'il était inadmissible que Bridé restât en prison, qu'il allait faire le nécessaire. Tirant de cet accueil tout le parti possible, elle ajouta qu'il avait tort de bouder ses amis, de s'isoler comme si tout le monde était responsable de la défaite, sauf lui. Tous les Français, quelles que fussent leurs opinions politiques, souffraient autant que lui. Il fallait s'aider les uns les autres. Bridé ne répondit pas. Il dit cependant peu après « Ils me dégoûtent tous. Il n'y a rien à faire ici. Je te le répète, je veux rejoindre De Gaulle et je le rejoindrai, même si je dois y laisser ma peau. » Ils passèrent l'après-midi dans un cinéma bondé où on respirait avec peine. Des applaudissements coupés de sifflets crépitèrent au moment où défilèrent devant une estrade des légionnaires qui marchaient sans ordre, mais la tête haute et le bras tendu. « Quelle noblesse dans leur regard !» cria une femme. « C'est effroyable !» murmura Bridé. « Tais-toi !» dit Yolande. « Ma parole, ils font le salut hitlérien !» dit Bridé qui ne pouvait plus se contenir. « Vous ne voyez pas qu'ils prêtent serment ?» observa sèchement un vieux monsieur. Ils dînèrent dans un petit restaurant de la catégorie D, à 12,50 francs le repas. Ils allèrent ensuite se promener le long de la Saône. Puis, lorsque la nuit commença à tomber, ils se rapprochèrent de l'hôtel. Bridé aimait à se promener autour de la place Carnot à l'heure où les Allemands commençaient à rentrer dans leurs chambres. Les groupes d'agents cyclistes qui veillaient à leur sécurité devant les hôtels se moquaient d'eux parfois et, venant de l'autorité, ces moqueries attiraient les badauds. Bientôt, il fit nuit. « On va finir par se faire remarquer, » dit Yolande. Dans les bosquets qui entourent la statue de la République, il n'y avait pas que des couples, mais des hommes seuls qui rôdaient. Ils ne faisaient plus peur. une conséquence inattendue de la défaite était que les voyous eux-mêmes semblaient inoffensifs. De temps en temps, on apercevait des détachements de voyageurs qui descendaient de la gare. En passant devant une fenêtre hermétiquement close, Bridé entendit une radio. Il s'arrêta. Était-ce Londres ou Vichy ? C'était Londres. « Tu viens ?» dit Yolande. « C'est Londres, » dit Bridé. « Londres est fini. » « Non, ce sont les messages personnels. » On entendait distinctement « Le tandem de Roger est réparé. Les chimères sont des folles. Albertine n'a jamais été vaccinée. » Nous répétons « Albertine n'a jamais été vaccinée. Les chats du Luxembourg miaulent toujours. » Yolande s'approcha. « Tu viens, c'est sans intérêt. » Mais Bridé ne bougeait pas. Il éprouvait un plaisir à écouter ces messages. Ils étaient l'indice, le seul indice, au milieu de toute cette misère, que quelque chose se passait, qu'il y avait encore quelque part dans le monde des hommes qui trompaient les Allemands, qui montaient des machinations contre eux. Et il espérait confusément que, par il ne savait quel concours de circonstances, un de ces messages lui serait destiné. Qu'il entendrait par exemple tout à coup « Le mari de Yolande est attendu à Londres. » Nous répétons « Le mari de Yolande est attendu à Londres. » Le surlendemain, Bridé retournait à Vichy. Ses papiers devaient être prêts. Quoiqu'arrivé le matin, ce ne fut qu'à la fin de l'après-midi qu'il se décida à aller au ministère de l'Intérieur. En ces quelques jours, les menuisiers et les peintres avaient donné à l'hôtel de station thermale un aspect plus compatible avec le sérieux des services qu'il abritait. Le tambour de l'entrée avait été démonté. Les allées et venues étaient si nombreuses qu'il avait fini par devenir gênant. Et peut-être que des préoccupations de sécurité n'avaient pas été étrangères à cette suppression. Les quelques secondes qu'il mettait à tourner pouvaient favoriser un mauvais coup, un attentat par exemple. La réception avait été transformée en salle de garde. Des cloisons avaient été dressées un peu partout. Elles étaient déjà couvertes d'affiches de propagande. Un garde mobile avec casque et mousqueton se tenait devant la porte de l'ascenseur. Bridé sentit son cœur se serrer. Il avait l'impression que quelque chose s'était passé en son absence. Partout, des agents de police en uniforme. Par crainte d'être interpellé s'il passait sans rien dire, il demanda à l'un d'eux s'il savait où se trouvait le bureau de M. Basson. Le policier ne put répondre. Bien qu'il n'eût certainement pas la consigne d'accompagner les visiteurs, il conduisit Bridé à une table derrière laquelle se trouvait un huissier avec une chaîne, comme à Paris, et dont la poitrine était couverte de décorations. Cet huissier consulta le tableau. Assis à côté de lui, deux messieurs d'apparence quelconque parlaient à voix basse. « Vous voulez voir M. Basson ?»« Oui, au premier étage. » Le garde mobile n'avait pas bougé. Bridé le remercia. Cette présence à côté de lui d'un homme en armes lui était profondément désagréable. Un événement fâcheux avait dû se produire. C'était pour qu'il ne se renouvelât pas que les visiteurs étaient accompagnés. Bridé s'engagea dans l'escalier. Sur le palier même du premier étage, une douzaine de fauteuils d'osier étaient alignés. « Ils ont dû faire un bureau de la salle d'attente, » pensa Bridé. Il demanda Basson. L'appariteur revint quelques instants après. M. Basson n'était pas dans son bureau. M. Basson était en conférence avec le ministre, mais M. Basson n'allait pas tarder. Bridé s'assit. Sur une pancarte, il lut entre autres nom, celui de Basson, suivi de ces mots où on sentait une incompréhensible mauvaise humeur. M. Basson ne reçoit que de 11 heures à midi. Il s'installe pour longtemps, pensa Bridé. Il alluma une cigarette. Entre chaque fauteuil, un cendrier que portait un groom en bois découpé avait été placé. Des fonctionnaires passaient à chaque instant, sans que jamais un seul jetât le plus rapide regard sur les visiteurs. Bridé attendait depuis 1 heure lorsque 4 hommes sortirent d'un bureau. Basson était parmi eux. Bridé se leva à demi pour attirer l'attention. Il rencontra le regard de son ami, mais celui-ci, encore tout frémissant, ne lui fit aucun signe. Bridé se rassit. « Dès qu'il va avoir fini, pensa-t-il, il va venir me chercher. » Les quatre hommes parlaient à haute voix, sans paraître craindre le moins du monde une indiscrétion. Bridé ne quittait pas des yeux Basson, mais ce dernier, comme s'il le savait, ne regardait jamais de ce côté. « Le type qui est au milieu doit être le ministre, » pensa Bridé. C'était un homme grand et fort, vêtu d'un costume élégant. Il avait les cheveux pommadés. Il ne parlait pas, mais n'écoutait pas non plus ce qu'on lui disait. On sentait que l'essentiel avait été réglé et qu'il ne s'attardait que par courtoisie. Quant aux trois autres, leur agitation avait quelque chose de servile. Elle visait à donner d'avance une idée de la conscience et du sérieux avec lesquels les ordres seraient exécutés. Enfin, ils se séparèrent. L'appariteur courut dans l'escalier et, à mi-chemin, cria « Le ministre ! Le ministre !» On entendit un bruit de crosse sur les mosaïques Second Empire du rez-de-chaussée, puis d'autres voix.
« La voiture ! Faites avancer la voiture ! Le ministre !»
Les trois hommes se quittèrent à leur tour, en se témoignant beaucoup d'égards, comme si leur chef avait été encore présent. Bridé se leva de nouveau à demi, persuadé maintenant que Basson allait lui parler, mais ce dernier passa sans même tourner la tête. « Basson, Basson !» appela Bridé. Ce dernier parut ne pas entendre. Bridé retourna auprès de l'appariteur, un peu gêné d'avoir été traité ainsi. « Je vais aller prévenir que vous êtes là, » fit gentiment l'appariteur. Bridé s'engagea dans le couloir, en restant pourtant discrètement quelques pas en arrière. Peu après, l'appariteur revint. « Monsieur Basson n'a pas le temps de vous recevoir. » Bridé ressentit une impression d'accablement. C'était donc tout ce qui restait de leur amitié, ou plus exactement de leur longue camaraderie de jadis. « Il ne vous a pas dit quand je pouvais revenir ?»« Non, monsieur. » répondit l'appariteur toujours avec gentillesse, comme si, au fond de lui-même, il ne pouvait s'empêcher de trouver ses nouveaux chefs bien cavaliers. « Je vais aller le lui demander, » offrit-il de lui-même. Il revint peu après et, faisant un geste d'impuissance, « Monsieur Basson dit que vous n'avez qu'à revenir entre 11h et midi. Vous serez sûr de le trouver. » Bridé venait à peine de faire quelques pas dans la rue lorsqu'il rougit tout à coup. C'était la première fois depuis sa jeunesse qu'il rougissait de nouveau ainsi, une fois seul, au souvenir d'un incident qui pouvait être considéré comme humiliant. L'idée qu'ils se font d'eux-mêmes est quelque chose d'effarant, murmura-t-il. Puis, il pensa qu'il avait tort de se laisser aller ainsi. Il y avait des millions de Français qui auraient été heureux de faire de pareilles démarches pour être libres. Et ils n'eussent pas rougi, eux. Le lendemain, Bridé retourna au ministère un peu avant midi, avec l'espoir qu'étant le dernier visiteur, Basson l'emmènerait déjeuner. « Ah, vous n'avez pas de chance !» s'écria l'appariteur. « Monsieur Basson vient de sortir, mais il va revenir. Attendez-le. » Bridé s'assit à la même place que la veille. Peu après, il vit passer Vauvray qui parut ne pas le reconnaître, puis le jeune employé qui, quelques jours plus tôt, lui avait demandé le nom de jeune fille de sa grand-mère. Pour tuer le temps, il prit sur une table un magazine assez luxueux où il n'était question que des joies de la vie au grand air. Basson ne revenait toujours pas. À 1h15, Bridé se décida à partir. Son attente, de normale qu'elle était, si son ami n'avait pas trop tardé, devenait indiscrète. Il venait de sortir lorsqu'une voiture dans laquelle se trouvait Basson s'arrêta devant le ministère. « Ah, vous n'avez pas de chance !» avait dit l'appariteur. C'était vrai. Quelques secondes de plus d'attente, et Bridé se fut trouvé le plus naturellement du monde en présence de Basson dans le hall ou l'escalier des Célestins. Décidément, il y avait des jours où tout se passait à contre-temps. Il était obligé, à cause de ces quelques secondes, de revenir sur ses pas, d'attendre que Basson sortît de la voiture, d'expliquer ensuite ce qui s'était passé. « Basson !» cria Bridé à son ami qui s'engouffrait à la hâte dans le ministère. Il se retourna. À la vue de Bridé, il montra une grande surprise. « Comment ? » dit-il. « Tu viens à cette heure-ci ? » ?»«
Je partais, au contraire, mais j'ai aperçu ta voiture. »«
Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps !» dit Basson, sans même tendre la main à son camarade.
« Viens me voir n'importe quel jour, mais entre 11h et midi. »«
Je viendrai demain, » dit Bridé.